Réponse, réaction, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, les pratiques, quelles sont les pratiques à risque au volant? Vous êtes conducteur, vous êtes en train de circuler maintenant à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani ou ailleurs. Alors, sachez qu'il y a des pratiques qui vous exposent. Eh bien, vous savez, bon nombre de chauffeurs s'exposent à certains risques en pleine circulation. C'est le cas, par exemple, de l'utilisation du téléphone et le comptage d'argent au volant. Ça, on voit souvent chez les chauffeurs taxi ou taxibus. Alors, suite aux multiples accidents enregistré dans la ville, la police des circulations routières vient d'interdire l'usage du téléphone pendant la circulation. Quelles sont les autres pratiques à éviter pour préserver sa vie et celle des autres passagers? Nous en parlons aujourd'hui avec Richard Bakiteli, moniteur à l'auto-école de la Gombe. Monsieur Richard, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, le fait de téléphoner au téléphone, c'est une pratique à risque?
Tout à fait, parce que quand on conduit, il faut être aux aguets. Un conducteur doit être prudent à l'approche du carrefour parce que ce qui change constamment, c'est le paysage et l'environnement.
Oui.
Le conducteur est là, il a son véhicule, mais ce qui change constamment, c'est le paysage. Donc chaque fois qu'il fait un 5 mètres, il fait un 30 mètres, il fait un 10 mètres, il y a toujours des changements. Il doit alors s'adapter à tous ces changements.
Oui.
Le fait de téléphoner, par exemple, pendant la circulation, expose le conducteur à beaucoup de risques parce qu'à ce moment, il ne pourra pas réagir face aux défis de la circulation.
Et il peut y avoir une voiture qui peut surgir ou un enfant qui traverse la chaussée et ça peut être très dangereux.
C'est très dangereux parce que à l'approche du carrefour, à ce moment-là, il y a un problème de visibilité.
Oui.
Parce que à l'approche du carrefour, on peut avoir un problème de ne pas bien repérer celui qui peut venir de gauche ou de droite, ou bien on fait des constructions juste à la limite du carrefour, ce qui va rétrécir le champ visuel. Voyez, maintenant on est exposé à beaucoup de risques. Il faut également faire partie la configuration en fait du lieu, soit un virage, soit un endroit où traversent les enfants, soit vous longez un marché. Tout cela, vous devez toujours en fait adapter votre vitesse en tenant compte de ces changements perpétuels, n'est-ce pas, de l'environnement.
Alors, et donc on ne doit jamais répondre les appels pendant qu'on est en train de conduire.
En tout cas, ce n'est pas souhaitable.
Mais parfois, on a des rendez-vous importants, on vous appelle pour vous annoncer une nouvelle importante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce qui est recommandable, c'est de quitter la chaussée, de trouver un accotement praticable et vous arrêtez votre véhicule, vous parlez au téléphone, mais pas pendant la circulation.
Et tout le temps, si vous recevez des appels, vous serez obligé d'accoster pour répondre au téléphone.
Parce que là, en fait, il faut pas prendre les risques quand on conduit. Il faut éviter. Parce qu'avec le code de la route, en fait, qui ne résout pas encore tous les problèmes de circulation,
oui,
il faut pas encore ajouter d'autres. Alors, ce qui fait que c'est qui un peu, si on a un appel important, il faut question même de trouver un endroit où on peut garer son véhicule et vous répondez au téléphone.
Et certains disent qu'il faut utiliser les téléphones à main libre, il faut avoir carrément des écouteurs pour ça vous évite n'est-ce pas la distraction.
Mais écoutez, quand vous téléphonez, très souvent vous pensez à la personne à qui vous parlez.
Oui.
Et vous voulez faire des gestes et tous ces gestes-là ne peuvent pas favoriser en fait la sécurité sur la route. Il y en a qui font la mimique, ils vont faire ceci, ils pensent à cette personne avec qui ils vont se parler. À ce moment-là, il est exposé au risque. Ce qui est vraiment recommandé, dans un premier temps, c'est de libérer la chaussée. Là, on est en sécurité.
Oui.
Et trouver un endroit pour parler.
Voilà, donc ce sujet vous intéresse, vous êtes conducteur, n'hésitez pas, réagissez, appelez-nous au 081-890-6394 pour poser des questions en direct. Notre invité Richard Bakiteli est là pour vous rendre service aujourd'hui. Il va répondre à toutes vos questions par rapport à la circulation routière, aux risques liés à la circulation routière. Donc écrivez-nous aussi à l'adresse action@radiocampus.net. Alors, monsieur Richard, on a vu une certaine pratique qui s'est développée, par exemple ici à Kinshasa, on voit des conducteurs compter de l'argent au téléphone. Par exemple, les chauffeurs des taxis, après avoir obtenu sa recette, bon, on les voit en train de compter son argent au téléphone. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cette pratique-là.
Oui.
Et pardon, compter de l'argent au volant. Merci.
Tout cela, ça attire encore la distraction. Parce que très souvent, les chauffeurs des taxis ne s'arrêtent pas à un endroit vraiment prévu. Et beaucoup d'entre eux s'arrêtent même sur la chaussée.
Oui.
Alors, ils comptent pour prendre un client, ou bien compter l'argent, ou bien faire l'échange et remettre l'argent au client.
Oui.
Tout ça, ce sont des pratiques qui ne sont pas de nature à favoriser, en fait, la sécurité routière. Alors, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est comme j'ai fait avec les téléphones portables.
Oui.
Il faudrait trouver un endroit, hein, où la sécurité est garantie, vous comptez l'argent, ce n'est pas l'intérêt de compter en jarre, mais pas pendant la circulation ou sur la route, là on est exposé.
Voilà, là on est exposé. Alors quelles sont les autres pratiques à risque qu'on peut s'exposer lorsqu'on est en train de conduire?
Par exemple, vous parlez à un client, mais très souvent quand vous parlez à un client, vous regardez le client, vous perdez déjà la route des yeux. C'est également être très dangereux.
Oui. Alors, il y a certains qui se retournent même pour regarder ceux qui sont derrière.
C'est ça justement, c'est ça le grand problème. Vous parlez à un client qui est sur l'arrière là-bas, alors vous allez tourner votre tête pour le regarder, alors à ce moment-là, vous exposez à trop de risques parce que vous avez perdu complètement la route des yeux.
Voilà, nous avons déjà en ligne, c'est une émission où les auditeurs appellent directement pour poser leurs problèmes et nos invités sont là pour résoudre ou répondre, apporter des solutions. Nous avons déjà en ligne Patrick qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa. Patrick, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous avez la parole, Patrick.
Ok. En tout cas, pour éviter les accidents ou la distraction quand on conduit, il faut respecter les codes de la route. Demander aux gens... disons, la PCR d'essayer sur les codes de la route, demander aux gens de ne pas téléphoner quand ils conduisent, là c'est bien, et demander aussi au chauffeur de ne pas boire de la bière quand il conduit. Vraiment, oui. Ça c'est vraiment important.
Voilà, est-ce que vous avez déjà connu un problème par rapport à la conduite? Vous êtes déjà exposé à certains risques ou vous connaissez des gens qui ont connu des risques?
Oui, personnellement je suis victime, j'étais en bande d'avant mission de service.
Oui.
Et j'étais sur une moto, moi-même je conduisais, et on m'a appelé, j'ai cherché à répondre, et j'ai fait un accident.
Oui, c'était, vous avez cogné quelqu'un ou vous êtes allé...
Non, moi je suis tombé, je me suis blessé.
Ah, ok. Merci beaucoup d'avoir appelé, Patrick. Hein.
Ok, je vous remercie.
Alors, monsieur Richard, on va quitter. Vous avez suivi l'intervention de Patrick?
Oui. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui génèrent le cas d'accident. Et parmi ces facteurs, je pense que la consommation excessive d'alcool et l'excès de vitesse, par exemple, ou bien vous avez la prise concomitante de certaines drogues. Parce qu'il faut, quand vous prenez des médicaments, drogue ici dans le sens de médicaments, il faudrait toujours lire bien les notices parce qu'il y a des médicaments qui ont des effets secondaires qui peuvent créer de la somnolence. Quand on conduit en étant, quand vous somnolez, ce n'est pas tellement recommandé. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui génèrent le cas d'accident. Alors, la réaction de notre ami de tout à l'heure, là,
oui,
par rapport à la consommation d'alcool,
oui.
Je pense que quand on consomme l'alcool, on est également exposé à trop de risques, parce que l'alcool rétrécit les champs visuels et augmente le temps de réaction, alors qu'on doit réagir vite quand il y a un problème sur la route. Donc, le temps de réaction est de la valeur de la seconde, en fait. Mais quand vous prenez l'alcool, ce temps-là va augmenter. Donc, on est exposé. Et également, à l'approche du carrefour, on ne pourra pas avoir une bonne vue périphérique sur le côté. Par exemple, on peut repérer un conducteur qui peut venir de gauche ou de droite. Vous avez la vue centrale. Mais le danger vient de gauche et de droite. Vous ne voyez pas ces gens-là. Vous approchez et vous engagez avec trop de risques. Vous voyez, donc, ce sont les éléments qui font que, pour aider notre ami tout à l'heure, on dit que la consommation d'alcool également est interdite.
Elle est interdite. Est-ce qu'il faut... il y a certaines personnes qui vont dans une fête, on lui sert de l'alcool, après il doit rentrer chez lui à la maison. Est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut céder le véhicule à quelqu'un d'autre qui n'a pas pris de l'alcool? Parce que certains, ils disent qu'ils ont une grande capacité de résistance. Hein. Il peut prendre 2, 3, 4, 5 bouteilles, mais il a toujours sa lucidité.
Alors que là, ici, il y a un problème d'individu, en fait.
Oui.
On n'a pas tous la même prédisposition à l'ivresse. Donc, parce qu'on n'a pas tous les mêmes aptitudes.
Oui.
Bon, il y en a quand ils prennent un verre de trop, ils somnolent. D'autres, par contre, ils sont en éveil. Alors, quand vous ne dormez pas, par exemple, pendant un certain temps, vous avez les nerfs tendus, vous ne serez pas conduit dans ces conditions.
Oui.
Donc, dans tout cela, il faut voir un peu comment est-ce qu'on est prédisposé à l'ivresse, ou bien on somnole, ou bien on a des réactions qui ne favorisent pas la sécurité sur la route. Donc, il faut, en fait, ne pas conduire en état d'ébriété.
Voilà. Et par rapport à la drogue, vous avez parlé de certains médicaments qui peuvent causer le sommeil.
Oui.
Est-ce que vous avez une idée? Vous avez déjà répertorié un certain nombre de médicaments qu'il faut pas, quand vous le prenez, il faut pas du tout conduire.
Surtout les tranquillisants.
Oui.
Les tranquillisants, quand vous avez beaucoup de douleurs, on vous donne les tranquillisants. Donc ça provoque également la somnolence. Si vous voyez un médecin pour un problème cardiovasculaire, par exemple, il peut prédire un document. Et là, on vous dit lire, c'est 10 mois, il est interdit de prendre ce médicament quand vous conduisez. C'est bien écrit. Mmh. Donc, il faut toujours que les amis, quand ils prennent les médicaments, doivent, n'est-ce pas, se référer aux notices.
Voilà, il faut toujours se référer aux notices. Nous avons en ligne notre auditeur, Fabrice Boyoma, qui nous appelle depuis Béni. Fabrice, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation, Fabrice?
Selon moi, ce n'est pas tellement le téléphone qui cause des accidents. Il y a aussi l'ivresse, la drogue et l'excès de vitesse par les chauffeurs.
Oui.
Par exemple, ici, à la route de... À la route Béni-Kisangani,
oui.
Il y a trop d'accidents à cause des vitesses, excès de vitesse par les chauffeurs. C'est conseillé aux chauffeurs de modérer leur vitesse. C'est ça.
Merci beaucoup, Fabrice, pour votre intervention. Vous êtes conducteur aussi?
Bon, malheureusement, non, je ne suis pas conducteur, je suis encore un élève.
Ah, vous êtes encore élève, mais vous rapportez une situation à Beni, sur la route Beni-Butembo, il y a beaucoup d'accidents à cause de l'excès de vitesse. Hein.
Oui.
Merci beaucoup d'avoir
appelé.
Beni-Kisangani. Merci beaucoup d'avoir appelé Fabrice. Monsieur Richard, vous avez suivi l'excès de vitesse aussi, c'est un comportement à risque.
Hein. Oui, c'est un facteur qui génère des cas d'accident, l'excès de vitesse. Alors, on est en excès de vitesse, en fait, quand les conducteurs n'arrivent pas à maîtriser son véhicule. Je ne pourrais pas avancer les chiffres, à moins qu'on puisse placer un panneau de signalisation qui limite la vitesse maximale.
Oui.
Alors, si vous dépassez, on est en infraction, si on dépasse de 10 km par heure, la vitesse maximale autorisée. Alors, il y a des endroits où il y a des virages, on pourra placer des panneaux de signalisation pour dire que dans ce virage-là, on vous prévient, par exemple, à 150 mètres, il y a un virage à gauche ou à droite, ou bien il y a une succession de virages. Alors, il faudrait, sûrement, que le conducteur puisse, en fait, adapter sa vitesse à la configuration du lieu.
Oui.
J'ai parlé de virages, j'ai parlé de sommets de côte, j'ai parlé de l'approche de carrefour. Ce sont des endroits à risque. Donc, quand on s'en approche, il faut avoir un comportement conséquent. Par rapport à la réaction de notre ami, je pourrais seulement ajouter ceci. Quand vous roulez sur une route, quand vous prenez par exemple un long parcours, et si vous prenez par exemple un long parcours où vous devez rouler en ligne droite pendant 30 km, disons, sur un parcours de 30 km, faites une ligne droite, ça crée en fait une réaction dans l'organisme du conducteur qui fait qu'il ne pourra pas avoir une bonne acuité visuelle. C'est-à-dire qu'il va avoir maintenant la vue périphérique va être rétrécie.
Oui.
Et à ce moment-là, il sera tenté de vite arriver au point. Il va accélérer de plus belle. Donc ça, c'est une réaction des conducteurs qui roulent vite sur certaines routes tout en ignorant qu'il ne faut pas rouler trop vite. Il faut adapter la vitesse au changement du milieu.
C'est le cas, par exemple, sur le boulevard du 30 juin, ici à Kinshasa, qui est en pleine réhabilitation, tellement que la chaussée est bonne aujourd'hui. Mais il y a certains conducteurs qui roulent à tombeau ouvert. Et ça, c'est un comportement à risque.
Oui, je vous donne un exemple. J'appuie également ce constat-là. Même à la cité, quand nous roulons sur les routes qui sont pas tellement praticables, mais dès qu'on va seulement faire les premiers travaux, nous avons enregistré, par-ci, par-là, des cas d'accident. Parce que ça incite, une route qui est bien faite, ça incite les conducteurs à rouler vite. Parce qu'il n'y a pas un endroit où on peut freiner.
Oui.
On trouve que la route est bonne, là, on peut faire la vitesse. Mais toujours, il faut limiter cette vitesse-là.
Alors, dans les centres urbains, on peut limiter la vitesse à combien? 60 km à l'heure?
60, oui. 60, mais oui. Le chiffre, c'est bien de pouvoir avancer le chiffre.
Oui.
Mais ce qui est important, c'est, j'ai dit au départ ici, que ce qui est important dans la circulation, c'est le changement de l'environnement.
Oui.
Donc chaque fois on ne pourra pas avoir le même paysage,
oui.
On
ne
pourra pas avoir le même environnement, ça change constamment. Donc le conducteur est exposé à ce défi-là. Il doit toujours adapter en fait sa vitesse aux différents changements de l'environnement. Alors quand vous roulez en plein centre-ville, là où il y a un virage, là où il y a du carrefour, là où il y a beaucoup de gens peuvent traverser, il faut avoir un comportement conséquent. Je pourrais parce que le boulevard est réhabilité qu'on doit rouler à 80, non. Parce qu'on n'a pas encore les autoroutes chez nous ici, où on peut limiter la vitesse à 120 km, sous forme d'autres essieux, mais en plein centre-ville, dans une agglomération,
oui.
La vitesse est limitée à 60 ou à 50 km par heure.
Voilà, le sujet vous intéresse, participez en nous écrivant à action@radiocapi.net. Monsieur Richard Bakiteli, moniteur à l'auto-école de la Gombe, est là pour vous rendre service. Il y a déjà quelques réactions qui tombent. Nous avons, par exemple, l'appel de Madame Charlie depuis la ville de Matadi. Madame Charlie, bonjour.
Bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Bon, je me mets à la position du client.
Oui.
Je me mets à la position du client. un chauffeur reçoit un coup de téléphone. Et vous voyez bien qu'il, quand il parle, il met votre vie en danger. Quelle doit être la réaction du client? Peut-il intervenir pour donner des leçons au chauffeur ou bien il doit rester tranquille?
Merci beaucoup d'avoir appelé Madame Charlie. Okay. Monsieur Richard, vous avez suivi la question?
Oui, j'ai suivi la préoccupation de Madame Charlie.
Oui.
Elle s'est mise à la place du client et que le conducteur est en train de téléphoner. Quelle sera maintenant la réaction du client en fait? Le client ne peut pas avoir cette réaction de pouvoir interdire au conducteur de parler, c'est question de conscience. Et c'est lui qui conduit, c'est lui qui est derrière le volant en fait. Mais il met la vie des autres en danger au cas où il y a un accident qui se produit. Dans ces cas, comme nous sommes dit, c'était ce qui intéresse tout le monde. Je pense que maintenant, tout le monde doit prendre conscience qu'il n'est pas vraiment souhaitable de conduire et entrer et téléphoner au même moment. Donc je pense que la réaction du client serait d'attendre que le chauffeur termine n'est-ce pas, sa communication et poliment, il dit voilà, ce n'est pas recommandé de téléphoner pendant que vous êtes derrière le volant.
Mais si les chauffeurs réagissent mal, parce qu'il y a certains, hein, on le voit, les chauffeurs de taxibus, surtout à Kinshasa, parfois ils ont des réactions épidermiques et puis ça peut engager, déclencher une discussion.
C'est ça justement, mais on ne peut pas se faire justice. Hein. Bon, le problème ici, c'est des questions de conscientiser en fait le conducteur, hein, de l'utilisation du téléphone pendant la conduite, le danger et qui cela peut poser. Donc je pense que c'est un problème de conscience individuelle,
oui,
quand on est derrière le volant. Et que le client également a ses droits et qu'il faut absolument respecter. Donc je pense que là, il faut que le pouvoir public puisse, n'est-ce pas, sensibiliser les conducteurs et vulgariser en fait ces recommandations.
Continuez à nous appeler au 081-890-63-94 pour les SMS. Faites le 081-070-50 et pour ceux-là qui veulent nous écrire, l'adresse c'est action@radiocapi.net.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Nous avons en ligne Richard qui nous appelle depuis Arou, dans la province orientale, en Ituri. Arou, bonjour. Pardon.
Oui, bonjour.
Pardon, Richard, bonjour. Oui, alors, quelle est votre préoccupation, Richard?
Ma préoccupation, c'est que...
Oui.
Quand je parle de secteur de moto, même les autorités disent que ça ne fait pas la moto, ils ont le téléphone, pas ils sont appelés. Maintenant, je voulais demander notre invité du jour. Qu'est-ce qu'il pense pour le
Bon, Richard, nous avons du mal à suivre votre question. C'est un problème peut-être des liaisons téléphoniques. Monsieur Richard, je ne sais pas si vous avez capté.
J'ai capté. Il parlait de la moto, je pense.
Oui, hein, il a parlé de la moto à un moment donné.
Il a parlé de la moto parce qu'à l'intérieur, on roule sur moto.
Oui.
Nous avons également à notre école de la Gombe la formation moto. Et par rapport au véhicule en général, la voiture, la différence est que le conducteur...
Voilà, je pense que maintenant on peut encore bien l'entendre. Richard, vous êtes de nouveau en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Oui, allez-y. Quelle est votre question, votre problème?
Mon problème est... Il y a certaines autorités qui savent utiliser la moto, même d'autres. Mais qu'est-ce que les autorités ne constituent pas?
Le problème persiste toujours. Richard, il y a un problème au niveau de la liaison téléphonique. Monsieur Richard, vous pouvez quand même, vous avez capté, il a parlé de moto. Vous disiez que vous avez
on a également un module de formation sur moto.
Oui.
Par rapport à la formation véhicule, quand on conduit un véhicule par rapport à celui qui est sur la moto, la différence est que celui qui est sur la moto est exposé à beaucoup de risques parce qu'il y a un contact intime avec la nature.
Oui.
Par rapport à celui qui est à l'intérieur du véhicule, il est protégé par la carcasse du véhicule.
Oui.
Alors, donc, quand vous conduisez, vous êtes sur une moto et que vous parlez au téléphone, là, on est encore plus exposé à des risques. Parce qu'à ce moment-là, vous perdez en fait l'attention.
Oui.
Et vous devez tenir, n'est-ce pas, votre moto avec deux mains. Et vous serez peut-être tenté de prendre l'autre main pour prendre votre portable.
Oui.
Voyez comment est-ce qu'on est exposé. Mais pour un une voiture, on peut conduire avec une main au volant, mais voyez un peu comment est-ce que pour les deux catégories de formation, il y a cette différence hein, qui fait que celui qui est sur moto, quand il parle au téléphone, il est exposé à beaucoup de risques par rapport à
celui qui est dans une voiture.
Voilà, c'est ça.
Oui, et on le remarque, vous savez, depuis un certain temps, à Kinshasa, par exemple, le phénomène moto s'est de plus en plus développé. On voit de plus en plus beaucoup de motos qui assurent le transport en commun dans la ville de Kinshasa. Mais on remarque parfois ces conducteurs de motos transportent 2 à 3 personnes sur une même moto. Donc vous avez 3 personnes sur une même moto. Est-ce que c'est pas un comportement à risque?
C'est un comportement à risque parce que les motocyclistes, en fait, on ne connaît pas très bien comment est-ce qu'ils ont appris sur ces motos. Est-ce qu'ils ont les connaissances requises? Ils ont les connaissances adéquates qui vont leur permettre de bien rouler sur le moto et de transporter les gens? Je pense que le pouvoir public devait réglementer ce domaine.
Oui.
Oui, parce que jusque-là, on voit qu'il y a beaucoup de motos qui circulent ici, mais il y a encore beaucoup de choses à faire.
Il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons un autre auditeur en ligne, Paul Nido, depuis Kinshasa. Paul, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, Paul, vous avez la parole.
Oui, je voudrais demander à ce monsieur, il a dit tout à l'heure qu'il y avait un risque quand on conduit avec le téléphone main libre ou alors des écouteurs.
Oui.
Alors que dans tous les pays du monde qui se respectent, on a autorisé cette procédure-là.
Voilà, monsieur Richard, vous avez suivi sa question.
Ah, il dit à travers le monde, oui, il dit que c'est autorisé à travers le monde. Il s'appuie sur quel texte, je ne sais pas. Mais je pense que quand on conduit et qu'on parle au téléphone, et je pense qu'on est exposé. On est exposé à des risques. Je ne sais pas s'il peut nous contredire que quand on conduit et qu'on doit parler au téléphone, il n'y a pas risque. Mais je ne pense pas que ce soit réglementé à travers le monde. S'il doit s'appuyer sur le texte, qu'il nous donne les références.
Monsieur Paul, vous avez suivi?
Oui, je l'ai suivi, je dis ceci.
Oui.
Je répète à M. Richard que vous allez en France, que vous allez à Londres, que vous allez aux États-Unis, vous allez conduire avec un écouteur.
Oui.
Et ici, on dit qu'on ne peut pas conduire avec un écouteur. Est-ce que ce n'est pas encore une possibilité de tracasser encore le conducteur? On n'interdit même pas la musique. On vous autorise à écouter la radio. Et pourquoi vous ne pouvez pas parler avec votre téléphone? On vous interdit par contre ou on vous déconseille la musique lourde. Une musique forte peut vous déconcentrer. Mais une musique douce ne peut pas vous déconcentrer. Ça, ce sont les experts des autres écoles de l'Europe qui l'ont dit. C'est pas moi qui le vante.
Oui.
Oui, allez-y, monsieur Richard. Vous avez...
Ok, voici ma réaction, en fait. Si dans certains pays, on autorise de conduire avec écouteurs, je pense que dans tous ces pays-là, ils ont déjà fait un grand effort pour pouvoir améliorer la sécurité routière. Nous avons encore beaucoup de problèmes dans notre pays où même les prescrits du code de la route ne sont pas encore bien respectés. Il ne faudrait pas qu'on puisse encore prendre des risques. Je pense que le temps de pouvoir un peu arranger les routes, le temps de pouvoir conscientiser les conducteurs, le temps de pouvoir donner beaucoup de leçons, même de recyclage à nos conducteurs, je pense qu'on pourrait améliorer en fait la circulation. Mais dans un premier temps, je pense qu'il est bon de conseiller de faire cela parce qu'on a encore beaucoup de choses à arranger.
Vous avez suivi, monsieur Nido?
J'essaie de le comprendre, mais je ne le comprends pas du tout. S'ils veulent commencer, donc à commencer par mettre d'abord les trucs les plus élémentaires, les panneaux de circulation. Monsieur doit le savoir. Commencer par les panneaux, commencer par tracer les priorités des CD de passage à gauche et à droite, etc., pour arriver après à venir à ce genre d'interdiction. Lui qui parle comme ça, si aujourd'hui on doit lui indiquer une adresse au téléphone, il doit s'arrêter toutes les 10 secondes pour trouver l'adresse, par exemple, à Matete ou à Kinkole, je ne pense pas. Il aura besoin de son téléphone collé à son oreille ou alors son écouteur. Donc que le monsieur soit sérieux, que la police soit sérieuse. On ne doit pas donner encore une prétexte en plus à la population, plutôt aux agents non pour tracasser la population. C'est un non-sens. Commencez par le commencement. Il n'y a pas de panneaux de circulation dans cette ville. Mon neveu a empêché les gens de téléphoner.
Oui, mais oui, monsieur Paul Nido, vous avez suivi, c'est pas monsieur Richard, lui, il est là en tant qu'expert pour donner des conseils, prodiguer des conseils aux conducteurs. Il a bien dit, si vous voulez téléphoner, alors il faut garer carrément votre véhicule, vous téléphonez, et après ça, vous poursuivez votre course sans problème.
Mais c'est ça que je veux faire comprendre, que ce n'est pas possible, monsieur, même vous-même, monsieur le journaliste. Donc, supposons que vous allez chercher une adresse X à Matongé, on vous l'explique au téléphone, prenez à gauche, prenez à droite, vous allez vous arrêter à chaque seconde? C'est comme ça que dans les pays organisés, on a donné l'option de laisser les écouteurs parce que il y a des gens qui ne vivent que des livraisons. Et parfois, on doit leur indiquer l'adresse s'ils n'ont pas leur système de satellitaires.
Voilà, merci beaucoup d'avoir appelé Paul Nido depuis Kinshasa. Monsieur Richard, vous avez suivi.
Oui,
qu'est-ce qu'on peut on peut retenir à la fin après cette observation de Paul Nido?
Oui, il fait une comparaison avec les pays organisés par rapport au nôtre ici. Mais je pense que j'ai fait un petit constat. J'ai dit que nous avons encore beaucoup de choses à arranger. Mais je pense qu'il dit on doit placer les panneaux de signalisation. Les panneaux de signalisation sont placés, mais c'est pas dans toutes les artères. Donc c'est un travail qui doit continuer en fait. Hein. Oui. Donc sur certaines artères ici, nous voyons des panneaux. Et sur d'autres, il n'y en a pas encore. Il faut qu'on repasse les panneaux, qu'on garantisse la sécurité de tout le monde, parce qu'il n'y a pas seulement les conducteurs qui utilisent, n'est-ce pas, la route. Il y a également les piétons, les cyclistes, oui. Il y a également les pousse-pousseurs. Et tous ces usagers-là doivent être sécurisés.
Radio. Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Quelles sont les pratiques à risque au volant? Oui, c'est de cela que nous parlons aujourd'hui dans Okapi Service avec Richard Bakiteli, moniteur à l'auto-école de la Gombe. Nous allons recevoir un autre auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa. Albert, bonjour. Albert, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, allô, bonjour, je suis en ligne.
Oui, Albert, quelle est votre préoccupation?
Bon, ma préoccupation est celle-ci. Les téléphones au volant, ce n'est pas du tout bon. Parce que le téléphone est doté d'un répondeur. Souvent, moi, je le fais aussi quand je vais conduire, j'ai mis des répondeurs en disant que je suis en train de conduire, il faut me rappeler dans une ou deux minutes. Et puis, il y a une deuxième préoccupation, comme celle que mon ami qui vient de passer aux antennes tout à l'heure.
Oui.
Il faut carrément garer la voiture si vous voulez répondre. Tout simplement parce que lorsqu'on est en train de parler au téléphone, on pense à la personne à qui on parle.
Oui.
Et donc, il est conseillé de garer calmement le véhicule et puis parler doucement et puis tranquillement. Et là, vous allez faire votre itinéraire ensuite.
Voilà. Est-ce que, Albert, vous avez déjà connu des cas ou des témoignages des gens qui ont connu des accidents parce qu'ils répondaient au téléphone?
Moi-même, j'ai failli faire des accidents à cause du téléphone. Voilà pourquoi j'ai mis l'option de mettre un répondeur.
Merci beaucoup, Albert, d'avoir appelé, Monsieur Richard.
Ok, merci.
J'encourage Monsieur Albert. Je pense qu'il a parlé dans le même sens que ce que j'ai dit ici au départ.
Oui.
C'est que il faut prendre toutes les mesures de sécurité possibles pour éviter les cas d'accident. Je pense que le code de la route, cet ensemble en fait de règles, cet ensemble de recommandations qui sont là pour éviter des cas d'accident. J'avais dit au départ que le code ne résout pas tous les problèmes. Donc, comme ça ne résout pas tous les problèmes, nous, conducteurs, devons être prudents. Même si nous avons la priorité au carrefour, ça ne nous exclut pas d'être prudent. Donc, chaque fois qu'un conducteur s'approche du carrefour, il est de même débiteur de la prudence au carrefour. Donc, c'est pourquoi je dis que j'encourage mon frère d'avoir, n'est-ce pas, pris cette option, de mettre, n'est-ce pas, son répondeur pendant qu'il est derrière le volant.
J'ai suivi tout à l'heure Paul Nido qui a parlé il dit dans les écoles, les auto-écoles à l'étranger, on interdit plutôt la musique lourde. Et pourtant, il y a des gens qui aiment la musique, écouter la musique pendant qu'il conduit. Il y a de l'ambiance et c'est un comportement à risque aussi.
Je pense que la musique, si elle est douce, ça dépend de la personne qui l'écoute. Je dirais que si vous balancez une chanson qui vous captive, par exemple, je dirais que vous tentez de voir est-ce que cette chanson, c'est de qui? C'est de Fali, c'est de Ferré, ou de, voilà, vous pensez à la personne qui a chanté.
Oui.
Alors, à ce moment-là, c'est la distraction qui s'est créée. Donc, je pense que la musique, même si elle est douce, il faut voir également, on roule à quel moment? On roule sur quel itinéraire? Parce que si, par exemple, aux heures de pointe, et vous approchez, par exemple, des écoles où il y a des enfants qui peuvent être là, vous pouvez traverser, ça peut également attirer la distraction.
Il faut arrêter carrément la musique.
Il faut arrêter.
Même la radio, parce que certains mettent la radio en ce moment, par exemple.
La radio, là, pour certains programmes. Oui. L'information à certains programmes. Hein, là, c'est question de ne pas trop se concentrer sur ça. Donc, vous suivez, mais vous devez garder la route des yeux pour ne pas être surpris et surprendre les autres.
Oui. Alors, Monsieur Richard, est-ce que il y a certains à Kinshasa, on l'a remarqué, des chauffeurs qui s'énervent à tout moment avec tous ces embouteillages, tracasseries routières. Vous voyez quelqu'un s'énerver, en colère. Est-ce que ça expose pas cette attitude, ça expose également le conducteur?
Je pense que le stress au volant également expose les conducteurs à beaucoup de risques. Un conducteur, par exemple, doit faire un effort de ne pas trop s'alarmer, de ne pas trop se fâcher. Si je parle d'abord des conducteurs de taxi, des quelqu'un qui ont ce comportement vis-à-vis des clients, par exemple. Donc, ils savent que quand ils conduisent, le comportement au risque, c'est notamment également le stress. Donc, il faut surmonter tous ces comportements.
Il y a même des chauffeurs, des taxibus qui se chamaillent carrément avec les passagers. Ils se retournent et puis c'est des injures. À tout moment, ça arrive souvent à Kinshasa.
Je pense qu'il faudrait vraiment faire de cours, hein, des recyclages, pour pouvoir améliorer en fait le comportement de nos conducteurs, ceux qui ont la charge de transporter les personnes, les gens, tout ça, oui. Hein, et qui ont très souvent des comportements pas assez très catholiques. Donc je pense que là, c'est un problème de conscience, c'est un problème que le pouvoir public doit vraiment mettre en compte pour que ce comportement puisse changer. C'est la reconversion de la mentalité, je pense.
Voilà. Est-ce qu'il est autorisé, par exemple, aux femmes enceintes de conduire?
Le texte prévoit ce cas. Le code dit ceci à propos de femmes enceintes. Une femme enceinte, si elle doit conduire, doit avoir un certificat médical, du moins signé par un médecin, qui peut l'autoriser de conduire, ou de dire, voilà, cette grossesse est à risque, il ne faudrait pas conduire. Si elle doit conduire, elle doit avoir son certificat médical.
Donc, cela veut dire qu'il y a possibilité pour les femmes enceintes de conduire.
Ben, si elle doit conduire, elle doit avoir le certificat qui l'autorise de conduire. Sinon, s'il n'y a pas de certificat, elle ne peut pas conduire en état de grossesse.
Et on n'a pas déterminé jusqu'à quel mois, par exemple,
médecin,
par rapport à l'évolution de la grossesse.
C'est le médecin. Une femme enceinte va voir son médecin et pose les problèmes. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas risque, on va le faire. Un document dit, voilà, il n'y a pas risque, vous pouvez conduire, même à cet état-là.
Voilà. Alors, Richard, quels sont les autres comportements à risque qu'il faut éviter au téléphone? Alors, pardon, au volant.
Et le manque d'attention, par exemple, manque d'attention, trop d'attention aux choses anodines,
oui.
Manque de temps, pas assez d'espace, ne pas prévoir les erreurs des autres conducteurs, des connaissances rudimentaires ou fragmentaires sur le cours de la route, par exemple, manque d'adaptation aux conditions diverses de circulation, le comportement des conducteurs, les facultés affaiblies, par exemple, j'ai parlé de l'influence de l'alcool et de drogue,
oui.
Et de la fatigue également, et la panne de voiture et l'état général de la route.
La fatigue, vous revenez du boulot, les soirs vous êtes très très fatigué avec les embouteillages, vous somnolez, il y a des gens qui somnolent un peu
oui.
Alors qu'ils sont au volant.
Et quand on est fatigué, les nerfs sont tendus, à ce moment-là on n'a plus l'attention pour voir de gauche à droite, hein, donc on perd un peu l'acuité visuelle.
Et là il faut céder le volant à quelqu'un d'autre.
S'il y a quelqu'un à côté, il faut céder le volant.
Et s'il n'y a pas quelqu'un à côté?
Ah, il faut prendre toutes ces précautions à temps.
Nous avons Aline Mena depuis la ville de Kinshasa. Bonjour Mena.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, vous avez la parole, on vous écoute.
Bon, je voudrais savoir quelle est la bonne méthode quand on conduit quelle est la bonne méthode à utiliser quand on vous appelle? Car un jour, j'étais avec mon oncle, on lui a annoncé un message de deuil et il a lâché le volant. Quelle porte votre habité?
Et quand il a lâché le volant, qu'est-ce qui est arrivé après?
Bon, moi, je lui ai interpellé. Hein. Il s'est ressaisi par après.
Merci d'avoir appelé Mena pour vous poser cette question, M. Richard.
Là, c'est un problème d'instance psychique de chaque conducteur. En fait, là, il faut voir le tableau typologique du conducteur.
Oui.
S'il est émotif, actif, primaire, il réagit face, n'est-ce pas, à cette nouvelle qu'on veut de nous l'annoncer. Et je pense que quand on conduit, vous avez un coup de fil. J'avais dit au départ qu'il faudrait absolument chercher à se garer. Vous garez votre véhicule, vous répondez au téléphone, et la personne qui doit vous donner le message ne sait pas si vous êtes derrière le volant ou pas. Donc là, je ne pourrais pas donner avec précision que la personne qui a téléphoné, elle savait que son interlocuteur devait être derrière le volant. Donc là, il devait en fait passer le message autrement,
oui. Hein,
pas directement un message alarmant comme ça. Mm-hmm. Je pense que c'est ça qui est arrivé.
Voilà, vous avez suivi, Mena, il dit qu'il a même lâché le volant et ça...
Ça, c'est dangereux.
C'était très dangereux, là. Voilà, le sujet vous intéresse, les pratiques à risque au volant, appelez-nous au 081-890-6394. Notre invité Richard Bakiteli, moniteur à l'auto-école, est là aujourd'hui pour vous rendre service. Alors, vous étiez en train d'énumérer un certain nombre de comportements à risque. Je pense que la liste a été exhaustive. Hein.
Oui, la liste est longue. Je pense que, hormis en fait certaines pratiques, j'ai parlé de le problème de la fatigue, on a un peu commenté là-dessus. Également, il y a un problème de connaissances, en fait.
Oui.
J'ai parlé de connaissances rudimentaires, j'ai parlé de connaissances fragmentaires du code de la route. Cela également expose les conducteurs à beaucoup de risques, parce que vous arrivez dans un carrefour, vous ne savez pas que vous avez la priorité, vous engagez comme ça avec trop de risques, il y a pas une lac, problème de connaissances, le refus des priorités. Donc, il faut prendre ces connaissances, ça s'apprend, en fait, pour savoir ses droits également et ses obligations.
Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de... Vous avez parlé tout à l'heure des choses anodines. Est-ce que vous pouvez citer quelques-unes?
Alors, quand on conduit, en fait, il y a bon nombre de détails qu'il faudrait identifier et analyser.
Oui.
Et passer alors à ce que nous appelons le principe de rejet et d'acceptation. Parce que tous ces détails-là ne sont pas à prendre en compte. Il faut seulement passer au tamis et ne prendre en compte que les détails qui se rapportent à sa sécurité, en fait. J'ai parlé tantôt ici, vous parlez de détails anodins. Ou bien, j'ai parlé de choses anodines.
Oui.
Par exemple, vous roulez et vous voyez sur le trottoir une jeune fille habillée en jupette. Là, c'est pas tellement un détail sécurisant pour vous.
Oui.
Par contre, vous roulez sur votre route, vous voyez une fourgonnette qui s'arrête là avec des mentions, par exemple Oncle John ou bien Ice Cream ou tout ça, et ça peut attirer votre attention parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir des enfants qui sont passés devant pour avoir une glace et les enfants peuvent traverser en catastrophe sans pourtant regarder à gauche et à droite. Là, c'est un élément qu'il faut comptabiliser. Parce que là, ou bien, tout ce qui bouge sur le trottoir, tout ce qui bouge sur le côté, ça doit également vous tiquer.
Donc, il ne faut pas tout regarder. Il y a certains...
Il y a des détails qui sont moins importants.
Moins importants.
La lecture d'une carte, par exemple, publicitaire.
Oui.
C'est pas tellement importante pour votre sécurité.
Mais pourtant, ça attire l'attention.
C'est ça, justement. Il faut alors faire un effort pour pouvoir passer au tamis les détails importants et moins importants.
Et quels sont les détails importants, alors? Vous faites attention.
Le détail important, c'est le détail qui se rapporte à la sécurité du conducteur.
Lesquels? Il faut voir, regarder les enfants qui traversent. L'agent qualifié.
L'agent qualifié, par exemple, c'est un détail important parce que quand il est sur le refuge, il est en train de réglementer la circulation.
Oui.
Alors, le panneau de signalisation, c'est un détail important. Les signaux lumineux au carrefour avec le feu rouge, jaune et vert, c'est un détail important. Et tout ce qu'il y a comme à l'approche du carrefour, en fait, il faudra avoir un comportement conséquent parce que quand vous arrivez au carrefour, il y a des carrefours qui ne sont pas une bonne visibilité,
oui,
à gauche et à droite, clairement, il faut faire attention à tous ces détails-là. Donc, je pense que les conducteurs ne doivent se prendre souvent en compte que les détails qui se rapportent à sa sécurité est passé au principe de rejet et d'acceptation.
Et pendant que si les conducteurs roulent la nuit, par exemple, il y a certains comportements la nuit qui exposent. Parfois, il y a certains qui roulent, je ne sais pas, disons les phares à 100 mètres, et ça peut éblouir les autres, c'est des risques aussi.
Là, c'est vraiment très, très dangereux quand on roule la nuit. Le problème de la nuit, c'est que, on dit toujours, il y a un analyste qui dit que la nuit, tous les champs sont gris.
Oui.
Alors, quand on dit que la nuit, tous les champs sont gris, ça signifie qu'on ne sait pas bien distinguer les couleurs la nuit. Alors, il y a un problème également de visibilité. On ne sait pas très bien quand on roule la nuit, on ne sait pas voir la limite de la chaussée. Sous certaines artères, dans certains pays, dans certaines villes, on a pris des mesures de sécurité pour rendre visible le bord fictif ou le bord réel de la chaussée.
Oui.
En mettant, par exemple, des catadioptres. Le catadioptre, en fait, ce sont des dispositifs fluorescents qu'on peut mettre soit au milieu de la chaussée pour séparer la chaussée en bande de circulation,
oui,
ou bien mettre également les catadioptres, n'est-ce pas, sur la rive. Là, on sait voir la limite de la chaussée.
Mmh.
En ce qui concerne, en fait, l'éclairage de véhicules, comme vous avez dit tout à l'heure, là, et il n'est pas recommandé de conduire avec le feu de route, donc le feu de 100 mètres, quand vous avez l'éclairage public suffisant, et continue,
oui,
c'est un détail important.
Mmh.
On peut avoir l'éclairage public suffisamment qui est discontinu. Sur un poteau, on retrouve que c'est éclairé, sur
autre poteau. Sur un autre poteau, oui.
Là, c'est dangereux. Mais si, là, vous roulez sur une chaussée à double sens de circulation, dès que la présence de notre véhicule est signalée par ses phares, vous devez absolument réduire vos phares, vos feux. Vous passez des feux de 100 mètres au feu de 50 mètres pour favoriser le croisement.
Oui. Et nous avons Glody depuis à la ville de Kinshasa. Glody, bonjour.
Bonjour.
Oui, Glody, vous êtes en ligne. Oui, allez-y.
Je voulais juste te demander que si, exemple, vous arrivez au palais de marbre,
Oui.
Il n'y a pas d'endroit pour s'arrêter, pour répondre. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant si on vous appelle pour vous indiquer une route?
Monsieur Richard.
Oui, je pense que l'auditeur pose la question de savoir si vous roulez normalement, il a donné un exemple, vous arrivez à un endroit où on ne peut pas s'arrêter.
On ne peut pas s'arrêter, voilà.
Donc, il ne faudrait pas encore prendre des mesures d'insécurité pour s'arrêter, mais chercher, avancer, chercher un endroit où on peut garer son véhicule. Il ne faut pas garer le véhicule n'importe où. Je pense qu'il y a des endroits où on peut... Il faut chercher un accotement, en fait. C'est un espace qui est juste qui est à côté de la chaussée, mais qui peut être, qui n'est pas aménagé, mais il peut également ne pas offrir, ne pas permettre en fait aux véhicules de garer à cet endroit. Oui. Là, il faut chercher maintenant un accotement praticable, c'est-à-dire un accotement où je peux garer en toute sécurité mon véhicule. Donc, c'est un problème de conscience. Quand vous avez un coup de fil, il ne faudrait pas répondre s'il n'y aurait pas un endroit où on interdit de pouvoir s'arrêter. Là, il ne faudrait pas faire cela.
Donc, ne répondez pas, roulez jusqu'à ce que vous allez trouver. Si la personne insiste, eh bien, trouvez un endroit rapidement.
Ah oui, un endroit,
il vous arrêtez
et puis vous parlez au téléphone.
Vous parlez au téléphone. Alors, continuez à nous appeler au 081 890 63 94. Notre invité est là pour répondre à vos préoccupations.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Nous avons en ligne Eric depuis la ville de Kinshasa. Eric, bonjour.
En fait, moi, ma question, c'est de savoir la différence entre... Parce que le monsieur dit qu'on ne peut même pas parler au téléphone, on peut pas parler au téléphone, même pas avec écouteurs ou haut-parleurs. Alors, ma question est de savoir quelle est la différence alors d'avoir une personne ou bien enfin, une personne dans la voiture avec... avec moi et en train de parler, puisque là quand je pars sur écouteur je tiens, en fait c'est comme on dit hand free, c'est à dire que c'est sur l'oreille et je parle comme ça, et c'est la même chose, c'est de la même manière dont je parlerai avec la personne qui est à côté de moi lorsque je conduis. Alors c'est quoi la différence par rapport au danger?
Je peux répondre à la question?
Oui, allez-y.
Si vous avez une personne à vos côtés et vous êtes en train de conduire et que vous parlez au téléphone, vous avez un écouteur par exemple, tout ça, je peux dire que jusqu'à présent, le législateur n'a pas encore prévu cette disposition. Donc moi je ne viens que vous donner des conseils pour éviter qu'on puisse avoir des cas d'accident. Donc j'ai dit que comme il n'y a pas encore jusque-là des mesures, il faudrait seulement... trouver un endroit où on peut garer son véhicule et directement. Mais quand vous parlez à une personne qui est à côté, ça dépend de la personne qui est en train de conduire. Il y en a quand il parle, elle doit regarder, tourner la tête. Dès que vous tournez la tête à gauche, il y a une bonne partie en fait de détails qui échappe à votre contrôle. Donc même la science le prouve. Donc quand on roule à la porte du carrefour, il y a la vue périphérique et il y a la vue, n'est-ce pas, centrale, où on doit prendre des décisions avant de traverser un carrefour. Mais dès que vous tournez votre tête comme ça, vous regardez le passage qui se voit à vos côtés, vous perdez une bonne partie, n'est-ce pas, du détail qui se trouve, n'est-ce pas, devant votre véhicule et derrière votre véhicule.
Vous avez suivi, monsieur Eric?
Oui, je suis.
Voilà, donc si vous parlez avec quelqu'un qui est à vos côtés, il ne faut pas regarder votre interlocuteur. Vous regardez devant vous, mais vous continuez à...
Bah oui, mais lorsque je parle sur au téléphone avec écouteur, je regarde que devant moi. Voilà. C'est la même chose.
Oui, oui, monsieur Richard, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Ah oui, s'il est prudent au volant, il n'y a pas tant mieux. Nous sommes ici en train de voir tous les éléments qui concourent pour éviter des cas d'accident.
Voilà, vous avez suivi, Eric.
Ok, ça va.
Merci d'avoir appelé. Alors, vous épinglez tout à l'heure un certain nombre de comportements. Quels sont les autres comportements à risque?
La monotonie du trafic. Je parle là ici le cas de chauffeur taxi qui prend le même parcours. Par exemple, je prends Victoire, Régis des Eaux, ou bien Victoire Kitambo. Quand il prend le même parcours, et cette monotonie du trafic va faire qu'ils n'ont plus d'attention, parce qu'ils savent déjà repérer les trous, ils savent déjà repérer à quel endroit il y a ceci, à quel endroit il y a cela.
Oui.
Mais ils prennent alors le risque, en fait, de pouvoir se déporter comme ça vers la gauche, parce qu'ils savent qu'à 10 mètres, il y a un grand trou là-bas. Mais ceux qui ne connaissent pas très bien cette artère-là, qui n'en ont pas une bonne géographie, ils sont également exposés. Donc, je pense que le comportement, quand vous prenez un parcours, très souvent le même parcours, ça crée la montée du trafic. C'est également un comportement à risque.
Un comportement à risque aussi. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là?
Il faut toujours, parfois, changer le parcours pour éviter que le même parcours, n'est-ce pas, soit toujours familier. Et il faut alors repérer les obstacles à temps pour prendre des décisions également à temps. Et il y a, j'ai parlé ici également de la panne de véhicules. Là, pour ce qui concerne la panne de véhicules, là, ça prend un petit pourcentage pour les accidents. Donc, il faut toujours prendre des précautions chaque fois qu'on a un problème. Donc, il faut avoir l'oreille mécanique, en fait. Je conseille aux conducteurs, dès qu'il y a un bruit sur le véhicule, ils ne doivent pas être négligents pour dire que non, ce bruit-là, ça ne m'intéresse pas. Il faut avoir l'oreille mécanique quand on conduit. Donc, il faut toujours, quand il y a un bruit, il faut aller voir le garagiste qui pourra alors faire le diagnostic, trouver à quel moment se trouve la panne et pouvoir réparer le véhicule.
Mais pour ce, est-ce que les gens qui souffrent des yeux, qui portent des verres, est-ce que le fait de conduire avec des problèmes des yeux, c'est également un comportement à risque?
Oui, si, oui, parce que dans les conditions pour avoir un permis de conduire, et on fait également l'examen sur l'acuité visuelle, comment vos yeux réagissent, parce que le grand problème, nous allons repérer les détails. Je disais au départ ici que le grand problème pour les conducteurs, c'est de pouvoir avoir au même moment beaucoup de détails qu'ils doivent identifier et analyser.
Oui.
Et mais ces détails-là ne peuvent être possibles qu'avec, n'est-ce pas, bien les yeux, en fait. Hein? Donc, l'acuité visuelle ou bien la portée visuelle, c'est cela qui va nous permettre de pouvoir repérer les différents détails et de prendre des décisions qui conviennent.
Oui.
Si on a un problème de vue, si on a un problème des yeux, il faut voir le spécialiste qui pourra alors prescrire les verres correcteurs.
Voilà, nous avons un autre auditeur depuis la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Steve, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Steve, oui, quelle est votre préoccupation?
Oui, merci pour la parole. Je salue aussi en passant tous les auditeurs de la Radio Capi.
Oui.
Ma préoccupation est la suivante. Je voudrais poser à monsieur l'inspecteur. C'est par rapport...
Non, c'est pas monsieur l'inspecteur. Monsieur Richard Bakiteli, moniteur à l'auto-école de la Gombe.
Oui. Ok, merci pour la correction.
Oui.
Ma préoccupation, c'est de savoir... La formation qu'ils sont en train de donner actuellement aux conducteurs, est-ce qu'ils s'en tiennent vraiment compte? C'est parce que, si je dis ceci, je vois beaucoup de conducteurs qui viennent des auto-écoles actuellement, ils n'ont pas la maîtrise sur le code de la route, ni la maîtrise de conduire, et il suffit d'être avec lui dans la voiture ou dans le camion pour voir la façon qu'il est en train de manier, vous verrez que, donc, il n'a pas été bien formé. Par rapport aux formations que nous, on a reçues à l'époque, il y a toujours une différence. Actuellement, ils ne s'occupent pas de la formation. Ce qui leur intéresse, c'est de l'argent. Hein? Vous voyez, personnellement, ça me fait très mal. C'est parce qu'on est en train de mettre à la portée mon travail, quoi. Hein?
Oui, alors,
c'est pas bon.
Oui, vous avez dit que vous n'avez pas été formé dans une auto-école?
Moi, j'ai été formé à l'auto-école. J'ai commencé d'abord depuis le 3e des humanités dans un institut technique. J'ai eu mon diplôme et j'ai fait encore l'auto-école pendant 6 mois. J'ai toute la maîtrise sur le code de la route. Et par rapport à nos amis que je vois actuellement qui font l'auto-école, est-ce que vous pouvez imaginer qu'une auto-école qui peut former les gens dans 2 mois ou dans 1 mois et le conducteur n'a fait qu'une pratique de 2 ou 3 fois et puis on lui donne un brevet, est-ce que ça c'est normal? Et comment les gens pareil pourront s'en sortir pour bien maîtriser le code de la route ou soit bien conduire pendant dans la circulation?
Merci pour
ça,
votre...
Ça pose beaucoup de problèmes.
Merci Steve depuis la ville de Mbandaka, monsieur Richard.
Oui, par rapport à la réaction de notre frère, je pense que on ne pourrait pas se carter du sujet. Hein. Mais notre sujet, c'est de voir les comportements à risque au volant.
Oui.
Mais il parle de la formation. Je vais quand même répondre à sa question.
Oui.
Lui, il a suivi une formation à l'époque. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'étais pas là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. En fait, mais quand on fait une formation dans une auto-école, on doit s'assurer en fait que le candidat qu'on doit lâcher ne constitue pas un danger public pour lui-même et pour les autres. Et je pense que c'est un problème de conscience, parce que c'est comme un médecin qui est au chevet de malade et qui dit que le malade est déjà, il se porte bien, il peut sortir, il peut rentrer à la maison,
oui.
Et pendant qu'il n'a pas encore recouvré sa santé. Ça, c'est un problème de conscience professionnelle. Mais je pense qu'à l'autre côté de la Gombe, quand nous formons nos candidats pour répondre à la préoccupation de notre confrère ici, c'est il y a toujours un test d'évaluation qui est fait juste à l'issue de la formation. Et il y a un collège, en fait, d'examinateurs qui vont déterminer si le candidat peut recevoir, en fait, son brevet de fin de formation et qu'il pourrait alors avoir son permis de conduire. Mais je pense que l'expérience, nous ne pouvons pas dire que confirmer ici que sur le 100% d'élèves que nous formons, du moins dans notre centre, qu'il y a 100% des réussites, il y a toujours un certain pourcentage, mais je peux vous rassurer que ceux qui sortent de notre école de Gombe, du moins ceux à qui on remet les documents à fin de formation, l'expérience vient avec le temps. Je ne pourrais pas comparer, par exemple, vous qui avez suivi la formation pendant 6 mois, n'auront pas un module de formation de 6 mois à l'autre école de la Gombe. Donc je pense que la durée, la plus longue, c'est 1 mois.
Voilà, nous allons prendre une dernière réaction. Elle vient de Zico depuis Lubumbashi. Zico, bonjour. Zico, vous êtes en ligne, bonjour.
Bah, je voulais juste appuyer un tout petit peu monsieur le moniteur.
Oui.
Appuyer monsieur le moniteur, parce que des fois, quand on vous appelle au téléphone, quand vous êtes au volant, vous ne savez pas quel message on veut vous donner. Personnellement, moi, j'étais au volant, on m'a appelé pour m'annoncer un deuil. Vous voyez un peu, j'ai mal réagi, j'ai paniqué. Ça a failli causer un accident. Bref, j'ai vécu, c'est une expérience vécue personnellement. Oui. C'est pour cela que j'appuie, je déconseille formellement l'utilisation du téléphone au volant, en tout cas.
Merci beaucoup d'avoir appelé Zico depuis Lubumbashi pour appuyer M. Richard.
Ok, ça va, merci.
Voilà, M. Richard, on va bientôt terminer cette émission. Est-ce qu'il y a encore d'autres comportements à risque qu'il faut éviter sur votre liste?
J'ai parlé d'espace. Et les conducteurs voient souvent en groupe serré et ne s'allouent pas assez d'espace pour manœuvrer au cas où ils doivent s'arrêter ou éviter un obstacle qui survient subitement. En plus, ils collent au pare-choc aussi bien quand ils roulent en groupe qu'individuellement. Donc c'est un problème ici de pouvoir, quand on conduit un véhicule, il faudrait trouver des espaces. Quand il y a moyen de pouvoir avoir un espace dégagé, je pense que là, il n'y a pas risque d'accident. Donc, oui, il faudrait éviter de talonner les autres s'il y a moyen de manœuvrer par la gauche, là où il y a l'espace, et rouler prudemment.
Oui, ça, on le remarque souvent à Kinshasa, hein, surtout les chauffeurs de taxi ou taxibus qui collent, qui talonnent les autres.
Oui, très souvent avec les véhicules qu'on appelle communément les Nolo Libongo. Vous le voyez toujours quand ils roulent sur le boulevard, par exemple, ils vont envahir la bande d'accélération, donc la bande gauche, cette bande-là qui est réservée à ceux qui roulent vite et à ceux qui doivent dépasser ou bien tourner au prochain carrefour à gauche. Maintenant, ils bloquent en fait la circulation, eux le trafic est complètement entravé. C'est un comportement qu'on doit en fait enfin corriger. Hein, ça, c'est un comportement également à risque. Et ils sont toujours là, ils roulent moins vite au lieu de rester à droite ou bien d'égarer au cas où, parce qu'ils tombent toujours en panne régulièrement ces véhicules-là.
Oui.
Alors maintenant, vous voyez, la panne va survenir sur la route.
À cause de la surcharge.
Et la surcharge, oui, ça va créer le bouchon, ça va créer l'embouteillage, et vous voyez, c'est que ça va donner comme.
Voilà, et la surcharge, c'est aussi un comportement à risque, c'est aussi un problème.
Parce que c'est les réglementés, en fait. Hein. Oui. Vous devez arrimer votre chargement à l'intérieur de votre carrosserie. Il ne faudrait pas que le chargement dépasse le niveau en hauteur ou en largeur le niveau de la carrosserie. Et nous voyons toujours les camions surchargés dépasser le niveau de la carrosserie en hauteur et en largeur. Là, c'est réglementé.
Mais est-ce qu'on peut dire aussi que ceux qui conduisent les vélos, les tolékistes, hein, dans certaines villes à Kisangani, en Banaka, ailleurs, c'est les toléka, et il y a aussi des risques, hein, pour ceux qui conduisent ces moyens de transport.
Il y a toujours des risques, parce que si on doit réglementer tout cela, je pense que si on applique tout cela, on pourrait éviter bon nombre d'accidents sur nos routes.
Il faut éviter de rouler à vive allure.
Hein. Oui, c'est ça, j'ai parlé de l'excès de vitesse. Oui.
L'excès de vitesse surtout. Voilà, Richard Bakiteli, moniteur à l'auto-école de la Gombe. Nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation aujourd'hui pour répondre à toutes les questions des auditeurs par rapport aux pratiques, à certaines pratiques à risque au volant. Et nous savons, on vient d'interdire, par exemple, l'utilisation du téléphone parce que c'est un comportement à risque. Merci pour avoir accepté de répondre à notre invitation et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.